Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Voilà, un projet 100% français, une constellation de petits satellites qui font, je crois, une trentaine de kilos et qui vont tourner autour de la Terre. À terme, il y en aura 25 pour permettre de connecter des objets qui sont évidemment sur Terre. Et Kileis est représenté ce soir par son PDG, Alexandre Tisserand, qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir François.
Et bravo pour ce premier lancement qui s'est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était en Nouvelle-Zélande. 5 satellites de cette constellation sont partis. Ils sont déjà en orbite, voilà, à plus de 600 km d'altitude, je crois. Est-ce que vous êtes satisfait déjà, j'imagine, de cette première étape? Ça doit être un soulagement incroyable et puis une satisfaction aussi top, non?
Ah oui, on est très ravis. On est à la fois soulagés parce que c'est l'aboutissement de plus de 4 ans de travail pour concevoir, produire ces satellites et les lancer. Et c'est à la fois le début d'une nouvelle phase, puisque là, on entre du coup dans bientôt la commercialisation. Alors d'abord, on a les opérations de la constellation. Donc là, c'est les 5 premiers qui partent. On en a 20 autres qui vont partir dans les 7-8 prochains mois.
Et ah oui, donc voilà. Le timing est assez serré, mine de rien.
Tout à fait.
Donc les 25 satellites, pour vous, votre objectif, c'est qu'ils soient en orbite quand?
Alors, fin premier trimestre 2025.
Ah ok, d'accord, dans moins d'un an.
D'ici printemps de l'année prochaine, la constellation doit être opérationnelle, et donc le service complètement ouvert. On ouvrira un service préliminaire déjà d'ici la fin de l'année.
Mais avec moins de satellites, mais ça marchera quand même.
Exactement. Satellite est autonome, donc chaque satellite peut fonctionner tout seul.
Ok.
Donc là, on prend le temps, après ce premier lancement et les 5 premiers satellites en vol, de tout tester à fond pour être sûr que les tirs suivants, on pourra les faire de manière plus rapide et plus cadencée encore pour pouvoir ouvrir le service dès que possible.
Bon alors, expliquez-nous ça, ces satellites ont été lancés. Est-ce qu'ils sont déjà à leur orbite? Ils vous répondent?
Tout à fait.
Vous avez déjà des informations concernant leur... voilà, le bon fonctionnement de toute leur électronique.
Tout à fait. C'est le moment évidemment critique. Il y a d'abord le lancement, s'assurer que les satellites sont bien injectés sur la bonne orbite. C'est le cas. Ouais. JetLab, notre lanceur en Nouvelle-Zélande, a fait parfaitement le job. C'était leur 50e tir. Ils ont fait ça parfaitement. Après, il y a ce petit temps, quelques heures, où on est tous en stress parce qu'on attend de pouvoir contacter les satellites, leur parler, comme vous dites. Et donc ça a été le cas. Rapidement dans la nuit, on a pu dialoguer avec eux, à la fois les écouter, à la fois leur parler, et donc commencer à configurer les satellites. Les deux nuits qui ont suivi jeudi soir, vendredi soir, ont été assez intenses, parce qu'il faut évidemment régler tout et calibrer tout un tas de choses sur les satellites, mais ces choses quasiment faites. Et là, on va passer à des phases un peu plus profondes de test de tout le satellite dans les semaines qui viennent, de sorte que à la rentrée, on aura quelque chose de relativement stable.
Avec la mission principal, rappelons-le, c'est que en fait ces satellites sont là pour connecter des objets. En fait, c'est de l'IoT, quoi, finalement.
Exactement, c'est de l'IoT.
Et alors, à qui vous adressez-vous et quel type d'objet comptez-vous connecter?
Alors, on a effectivement une mission donc de connecter des objets partout sur le monde. Donc, ça marche sur 100% de la surface du globe. L'intérêt de la constellation, c'est qu'on a une donnée avec une latence qui est assez faible, de l'ordre de 10 minutes partout sur le globe, 10-15 minutes. Et ça va viser des applications assez variées. Donc, on est plutôt sur du B2B. On va faire de l'asset tracking, on va faire du monitoring, on va faire de l'alerting. Donc, des cas très concrets, ça va être des capteurs de détection de feux de forêt, par exemple. Mm-hmm. Des capteurs qui sont attachés aux arbres et qui détectent un niveau de CO2 qui envoie une alerte. On va faire du tracking de wagons. On vient par exemple d'annoncer un client qui s'appelle Europort, qui fait du fret ferroviaire et qui, avec le fabricant Carelink, permet de suivre ces wagons et de détecter des freinages intempestifs sur ces wagons-là. Donc ces deux acteurs français sont à bord et lancent un produit pour traquer des wagons. Mm-hmm. On suit des animaux sauvages pour les scientifiques, on suit des bateaux de pêche, on monitore des infrastructures ferroviaires ou électrique. Voilà. Et donc à chaque fois, c'est des petits objets qui peuvent faire jusqu'à la taille d'un demi-pouce, mais en général, c'est à peu près la taille d'un téléphone, si vous voulez.
D'accord.
Et la grande caractéristique, c'est qu'ils sont suffisamment petits, peu chers et très autonomes en énergie. Ça, c'est un point très important. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir besoin de les recharger tous les jours, tous les deux jours ou toutes les semaines. Ça peut durer des mois, voire des années. C'est cette autonomie-là qui est très intéressante pour nos clients.
En fait, vous êtes un peu le Sigfox ou le LoRa de l'Internet par satellite, finalement. Enfin, en tout cas, de la connectivité par satellite.
Exactement. C'est le même type de message. C'est des petits messages qui remontent une information de position, de température, D'accord. de CO2, de localisation, etc.
Parce que, en fait, tout à l'heure, on parlait de Starlink, évidemment, qui est un beau succès de la part de SpaceX et d'Elon Musk, mais évidemment ça apporte de la connexion au débit. Mais là, vous, c'est pas l'objet. C'est vraiment des petites informations que vous allez envoyer et qui sont très frugales en termes d'énergie. Voilà, autant Starlink c'est génial, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Vous, c'est tout le contraire en fait.
Exactement. On a vraiment positionné sur la sobriété autant que possible. Donc là où Starlink va vous permettre de regarder Netflix au milieu de l'océan sur un bateau, nous c'est pas des usages qu'on vise.
C'est pas du très haut débit. La latence finalement, ça a pas de sens. Là, ça va être pour par exemple. Est-ce que vous pouvez suivre des objets?
Complètement, on peut suivre n'importe quel objet. Il suffit d'avoir un petit capteur qu'on met dessus.
Hein.
Donc on a des capteurs qui commencent à être un peu standard, qui, comme je disais, font la taille d'un demi-téléphone et qui envoient une position régulière. On choisit entre toutes les heures, tous les jours, selon les besoins.
En revanche, il faut que ce soit à vue du ciel. On est d'accord.
Ouais, tout à fait.
C'est le problème du satellite. C'est-à-dire que si c'est à l'intérieur, on parle d'un bateau. Si c'est à l'intérieur, ça va pas marcher.
En effet, comme Starlink, si vous mettez à l'intérieur d'une
navette,
ça va être compliqué. Ouais.
Pareil. Et là, on n'a pas trouvé de solution aujourd'hui.
Non, mais alors ce qu'on fait, c'est qu'on mixe ça avec les réseaux terrestres. C'est-à-dire que les réseaux terrestres, ils couvrent certes que 15% de la surface du globe et nous, on fait tout le reste. Mais là où ça marche bien. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte des partenariats, nous, aujourd'hui, pour pouvoir faire des capteurs connectés, des objets qui se connectent soit au réseau terrestre quand ils sont disponibles, donc vous parliez de LoRa tout à l'heure, par exemple, soit quand c'est plus disponible au réseau satellitaire. On a annoncé un partenariat avec Semtech récemment sur le sujet. Semtech, c'est un fabricant de puces, notamment dédié dans l'IoT et dans le protocole LoRa. Et sur ces puces-là, on peut faire aujourd'hui du Kineis et connecter, du coup, au satellite avec ces mêmes puces qui sortent du commerce.
Est-ce que vous avez déjà des clients potentiels? Parce que après c'est une course contre la montre. On sent que vous êtes tendu. Parce que même si vous avez levé beaucoup d'argent, plus de 100 millions, il va falloir respecter un timing parce qu'il faut que l'année prochaine ça fonctionne et que vous commenciez à engranger du chiffre d'affaires. Vous avez des clients qui sont plus que potentiellement intéressés par votre...
On commence tout à fait. Nous, on a déjà une série de 40-50 pilotes aujourd'hui de clients B2B qui sont plus qu'intéressés par la connectivité et pour déployer en masse le service. Je parlais d'Europe tout à l'heure. On vise plusieurs quand même dizaines de milliers de trackers. Il y a un sujet donc de clients et un sujet de distribution aussi. On annonce là ces jours-ci un partenariat avec une entreprise indienne qui s'appelle Dhruva Space.
D'accord.
Qui va pouvoir être notre pied dans le marché indien qui va faire distributeur de connectivité en parallèle.
Et oui, ils font quoi eux par exemple?
Et eux, alors eux c'est une boîte qui fait par ailleurs du spatial et donc ils font à la fois la distribution de connectivité et à la fois on a une coopération spatiale où on va rajouter un satellite avec des choses qu'on leur fournit et des choses qu'eux développent.
D'accord.
Et donc on a ce partenariat là.
Très bien. Donc, d'ici l'année prochaine, ça fonctionne. Est-ce que déjà les 5 satellites que vous avez envoyés vous permettent de tester le service? Est-ce que, par exemple, des clients pilotes pourraient tester ce service? Ça marche avec 5 satellites?
Oui, complètement. Ils vont le faire, comme je le disais, d'ici la fin de l'année, quand le service
sera vous pourrez faire
ouvert.
Les premiers tests.
Tout à fait. Là, on le teste, nous, d'abord, que la machine satellite marche bien. Ensuite, on va les positionner vraiment bien comme il faut sur leur orbite. Et ensuite, à la rentrée, on va faire des tests du service de performance et on ouvrira juste derrière.
Évidemment, c'est une offre qui se déploie à l'international, mais malgré tout, qui est une boîte française, ça fait quand même plaisir aussi. Alors, on parle beaucoup de souveraineté, etc., mais le fait de dire qu'une boîte 100% française, avec un jus de crâne français, va pouvoir aller chercher, charmer des... vous parliez d'entreprises indiennes, mais pourquoi pas américaines, etc.
Bien sûr, on a même déjà une filiale aux États-Unis, on a une licence pour opérer aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en France, c'est la première fois dans l'histoire du spatial français qu'on fait une constellation qui est à la fois financée par des fonds français, conçue, produite, opérée par un acteur français. Et tout a été fait en France. Les satellites sont sortis de l'usine Demeria avec une collaboration avec Thales Alenia Space et Comat par exemple, et ça mobilise toute la chaîne spatiale toulousaine. Les fonds sont français, nous évidemment français. Effectivement, c'est une fierté nationale quand même.
Alors on se projette à l'année prochaine, les 25 satellites sont lancés, votre service commence à fonctionner. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Quel est le plan numéro 2 en fait de Kineis? Est-ce que c'est de lancer d'autres satellites, aller peut-être plus loin dans la connectivité? Est-ce qu'il y a un plan d'après de tout ça?
Il y a toujours plein de plans parce qu'on est des ingénieurs et donc on pense très vite à la suite et on y pense déjà. Malgré tout, le focus c'est 1, on lance, 2, ça marche et 3, on atteint notre rentabilité.
D'accord.
On l'atteint d'ici 3 ans.
Okay.
Et ensuite, on pense à la suite. Comme la constellation a une durée de vie de 8 ans, par défaut, on renouvelle. Mais j'espère bien, et on a déjà des idées pour ça, ça qu'on va aller sur d'autres segments.
Que pensez-vous de cette petite musique en ce moment qui revient concernant Starlink et tous ces satellites qui sont à basse orbite, qui peuvent être des on va dire de vrais problèmes en termes de d'environnement et de trous de la couche d'ozone, parce que évidemment quand ils terminent leur vie, ils redescendent sur Terre, ils sont détruits quand ils rentrent dans l'atmosphère, mais ça pourrait dégager évidemment des produits qui sont pas très bons pour l'environnement. Quel est votre point de vue là-dessus?
Non, bien sûr, c'est un souci auquel il faut absolument se confronter, enfin, entre le secteur industriel et du spatial en particulier.
Alors rappelons, même si c'est sans commune mesure avec Starlink, vous, c'est 25 satellites.
Ah oui, on est 25 satellites.
Et eux, c'est plusieurs milliers. Hein.
On est sur aujourd'hui 6000 satellites qui font 200 kilos, donc on a un rapport qui n'a rien à voir. Ce sujet est un sujet de pollution environnementale, c'est certain. Maintenant, tout ce qu'on fait pollue d'une certaine manière. Il y a un bilan positif, négatif entre ce à quoi ça sert et ce que ça coûte. Ben, il faut faire le bilan. Est-ce que c'est utile de faire ça vu ce que ça coûte? Oui, non. Et on fait nos arbitrages.
Merci beaucoup, Alexandre, d'être passé par le plateau de Tech & Co pour cette voilà réussite toute fraîche. Hein. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces 5 premiers satellites Kileis qui sont sur orbite et qui fonctionnent. Rappelons que vous êtes le PDG de Kileis. Merci beaucoup.
Merci, François.